Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur Radio Diwa. C'est Axel qui vous parle et je suis accompagné de Pierrick pour cette émission.
Bonjour à tous.
Alors au sommaire de cette émission, qui est la 67e je crois, si je ne me trompe pas, je rappelle d'ailleurs que vous pouvez les réécouter sur le site rdwa.fr dans la rubrique émission thématique, l'Étoile Polaire. Et je me répète, mais elles ne sont pas encore toutes dispo parce qu'on attend de changer de serveur d'hébergement, tout ça. Donc il y a toutes celles de cette année, de cette saison, qui sont disponibles. Une petite quinzaine, je crois, quelque chose comme ça. Au sommaire donc, de cette émission, on va vous parler, comme d'habitude, du ciel du soir, du ciel à admirer en cette fin de mois de juin et début de mois de juillet. Et puis on aura quelques actualités du monde de la conquête spatiale. Oui, c'est ça, avec les sondes chinoises et le vaisseau américain de Boeing. Puis je vous parlerai un petit peu de la pluie, parce que voilà.
Parce qu'il pleut tout le
voilà.
temps.
Ça m'a inspiré une petite chronique. Et puis après la pause musicale, on vous fera un retour sur l'événement On the Moon Again, auquel on a participé la semaine dernière. Voilà. Alors Pierrick, je te laisse commencer avec le ciel du soir, si tu veux bien.
Ouais, ça marche. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer dans le ciel la nuit en ce moment? Alors, il y a la constellation du Lion qui arrive vraiment à la fin, voire même on la voit quasi plus chez nous à cause des montagnes, mais voilà, c'est vraiment la fin du Lion, c'est la fin du printemps, donc le Lion se couche. Ça, donc, c'est à l'ouest, hein, je commence toujours par l'ouest. Après, si on remonte un peu au-dessus, bah, on a la Grande Ourse, qui est là, bien visible, et qui nous amène jusqu'à Arcturus. Arcturus qui est bien visible, une étoile bien brillante qui est dans le Bouvier.
Donc je pense que c'est peut-être même la première à s'allumer en ce moment. Enfin, il y en a trois, quatre, mais une des plus brillantes, c'est quand même Arcturus avec sa teinte légèrement orangée au bout de la queue de la Grande Ourse.
Ouais, elle est facile à repérer si on suit la queue de la Grande Ourse, on arrive dessus. Si on prolonge la courbe, on arrive dessus. Qui nous permet de retrouver le Bouvier, donc la constellation dans laquelle est Arcturus. Au-dessus de ce Bouvier, on a cette couronne boréale, donc ce demi-cercle qui est là et qui devrait nous offrir un spectacle dans les mois qui arrivent, semaines qui arrivent, où une étoile devrait s'allumer plus fort. Donc affaire à suivre, on en a déjà parlé, mais je le redis à chaque fois.
De toute façon, il y aura des nuages le jour où ça va se passer. On ne pourra pas le voir. On est maudit.
Voilà. Juste derrière, eh ben, nous avons Hercule avec ce carré un peu particulier qui, une fois qu'on l'a dans l'œil, c'est pareil, on arrive à le retrouver. Donc Hercule, c'est pas juste un carré, hein, c'est une constellation plus vaste, mais il y a ce carré au milieu qui nous permet de retrouver ce fameux amas globulaire M13. Merci Axel. Et si on continue donc vers l'est, on retrouve Vega. Dans la lyre, on retrouve notre triangle d'été.
Ah, c'est une bonne nouvelle, ça.
Ouais, ça y est, il est là, et on le voit en début de nuit, il sort rapidement maintenant.
Ouais.
Donc avec ces trois étoiles qui forment ce fameux triangle d'été, donc Vega dans la lyre.
Qui est la plus brillante.
Deneb dans le cygne.
Qui est dans la voie lactée.
Et Altaïr qui est dans l'aigle.
Et qui est la plus basse sur l'horizon.
Oui.
Les trois.
Ouais. Et quand on voit ce triangle d'été, cela veut dire que le signe, quand on voit ce triangle, en tout cas, ça veut dire que la Voie lactée est pas loin.
Et oui, elle le traverse.
Et le signe vole dans la Voie lactée.
Oui,
c'est ce que je voulais dire. Et du coup, la Voie lactée, eh ben, ça y est, elle sort, elle est visible. Parce que jusqu'à maintenant, elle était plutôt couchée. Et là, ça y est, elle réapparaît. Donc, qu'est-ce que c'est la Voie lactée? La Voie lactée, c'est cette traînée laiteuse qu'on observe dans le ciel la nuit, qui traverse tout le ciel et qui est assez opaque, voire il y a des taches plus noires, des taches plus claires, on dirait que c'est un peu nuageux, nébuleux. Et bien la Voie lactée, c'est ça, et ça, c'est notre galaxie. C'est la galaxie vue par la tranche. C'est comme si notre galaxie était un disque, et on voyait la tranche du disque. Souvent, on dit plutôt un œuf au plat, avec une espèce de...
Oui, au centre, il y a un peu plus d'étoiles.
Un peu plus volumineux, mais en tout cas, c'est un espèce de disque, et nous, on voit la tranche, là. Donc c'est ça qui sort.
Et alors, j'ai rencontré sous un ciel étoilé l'autre jour une chinoise qui m'a parlé un peu de mythologie chinoise et qui me disait que Vega était une princesse, une des plus belles femmes du monde et une noble, une princesse, et qui s'est amourachée un peu comme dans d'autres histoires d'un prolo, d'un paysan qui est représenté par Altaïr. Et ils ont entretenu une relation jusqu'à ce que la famille royale s'en rende compte et sépare ces deux amants par la rivière d'argent, qui est le nom de la Voie lactée en chinois. Mais ils ont eu le temps de faire deux enfants qui sont les deux étoiles alignées avec Altaïr. Vous voyez, Altaïr, ça fait Altaïr au centre et puis à sa droite et à sa gauche, deux étoiles un peu plus faibles. Et voilà, ce petit alignement de trois étoiles qui sont les enfants de ce couple.
Les deux petits-enfants. Et on rappelle qu'en ce moment, on voit bien 5 étoiles bien brillantes dans le ciel. Donc il y a ce triangle d'été avec Vega, Altaïr et Deneb. Donc il y a Arcturus aussi qu'on a parlé. Et la dernière, Antarès.
C'est Antarès, ouais, qu'on voit bien sur l'horizon.
Qui fait partie du scorpion, qui est un peu plus basse au sud en début de nuit. Mmh. Mais c'est une belle constellation, le scorpion, avec la queue du scorpion là, qui sort avec Antarès, étoile très
rougeâtre.
Étoile
bien rouge, ouais, c'est ça. Qui lui a valu son nom, je crois que je l'ai déjà dit dans cette émission, mais c'est pas grave, je le redis. Antarès, en grec, c'est Anti-Arès, qu'on pourrait traduire par Anti-Mars, puisque Mars et Arès, c'est les mêmes dieux, que ce soit chez les Romains ou chez les Grecs. Et donc voilà, pour pas confondre Mars, qui apparaît bien rouge dans le ciel, ils ont vu cette étoile rouge, et comme ce n'est pas Mars, et bien c'est devenu Anti-Mars.
Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'elles ont la même teinte, hein. Franchement, ouais, très rougeâtre, assez facile à voir. Voilà pour ce petit tour du ciel.
Ben merci.
On peut peut-être juste dire un mot des planètes, on n'en a pas parlé encore, mais il n'y a pas grand-chose en ce moment, si ce n'est Saturne qui sort en deuxième partie de nuit.
Ouais, vers 1h du mat, 1h30 même. Ouais. Voilà. Ça. Petit à petit, plus l'été va avancer, plus elle sera là tôt, mais... Mais ouais. Bon, même fin août, elle sera là qu'à minuit, quelque chose comme ça.
Ouais. J'ai hâte de re-observer Saturne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue.
Son anneau qui est très fermé en ce moment. J'ai vu quelques photos d'astronomes motivés à se lever à 3 ou 4 heures du matin, avant le jour, pour le prendre en photo, pour prendre en photo Saturne. Et son anneau en ce moment est vu quasiment de profil, donc presque invisible, parce qu'il est relativement fin.
Ah oui, du coup, on le voit pas.
On le voit à peine. En photo, on le voit quand même. En visuel, je suis moins sûr. J'ai hâte de voir.
Ah, Saturne sans son anneau. Ok, à voir. Vous pourrez observer ça le 3 août à Marignac, répète. La nuit des étoiles qu'on organise le 3 août à l'aire de loisirs de Marignac. Voilà. Ok.
Ok, merci Pierrick.
Avec plaisir.
Est-ce que tu veux enchaîner avec les actus ?
Eh bien oui, on va continuer avec la Chine, qui a réussi à faire son retour d'échantillon sur la face cachée de la Lune.
Ouais, une première mondiale.
Donc une première. Alors, c'est pas la première fois que des sondes reviennent de la Lune avec des échantillons. Mais en tout cas, sur la face cachée, c'est la première fois.
Ah oui.
Donc avec un. C'est. Elle s'est posée le 2 juin, elle est repartie le 3 juin, donc une journée pour prendre des échantillons.
Oui, je crois qu'elle est restée une trentaine d'heures à la surface.
Ouais. Et le 25 juin, donc, elle est retournée sur Terre pour ramener les échantillons et tout s'est bien passé. Donc ils ont réussi à forer, ils ont pris en surface et aussi avec une foreuse à 1 ou 2 mètres de profondeur, je crois. Mmh. Et voilà, ça pourra nous donner des bonnes informations sur... la face visible et la face cachée.
Oui, sur les différences entre les deux. Et... Mmh. Ah ouais.
Donc voilà, ils ont encore réussi. Les Chinois sont très forts en ce moment dans l'espace.
Et ils ont profité pour réannoncer qu'ils comptaient envoyer un astronaute sur la Lune d'ici 2030. Enfin, en 2030.
Ouais, je crois qu'il y a encore des Chang'e, là, des sondes lunaires. Ouais. Il y en a encore 2 ou 3 prévues.
Ok.
Pour améliorer les protocoles, en fait, pour que si un être humain soit envoyé, tout soit bien clair,
bien rodé,
que tout se passe bien, qu'il y ait du retour d'expérience avec des machines.
Ouais. Bon, à côté de ça, par contre, les Américains, ils ont quelques petits problèmes avec le Starliner, c'est ça ?
Oui, ils sont plus en galère avec les nouveaux vaisseaux, le Starliner de Boeing. Donc, Boeing, on le sait, a plein de problèmes en ce moment sur ses avions,
oui.
Mais pas que. Ils ont développé aussi un vaisseau, donc une capsule, donc juste la partie qui va dans l'espace et qui revient sur Terre. Pas de lanceur, mais juste cette capsule qui n'est pas évidente à concevoir parce qu'il... Elle est conçue pour des humains, la Starliner, donc il faut qu'elle rentre sur Terre en bon état. C'est mieux. Et du coup, donc, c'était son premier vol inaugural, avec, il y avait déjà eu, je sais plus, c'est 5 ou 6 ans de retard, des millions de dollars de plus dans le budget. Bref, voilà, c'est encore un truc. Voilà. Et donc la capsule est partie avec deux astronautes assez capés. Alors j'ai plus leur nom. Ah si. Butch Wilmer et Sonny Williams, qui sont
des pilotes d'essai,
qui sont des anciens pilotes d'essai, qui sont déjà allés plusieurs fois sur la station spatiale. C'est des astronautes aguerris qui ont la soixantaine quand même, je tiens à le préciser.
Ah oui.
Je crois que 58 et 62 ans ils ont. Donc voilà, perdez pas espoir si vous voulez être astronaute. En tout cas, la capsule est bien arrivée sur la station spatiale internationale. Elle s'est bien amarrée, mais depuis, ils ont repéré plein de petites fuites de ci de là. Donc c'est des micro-fuites, c'est pas vraiment dangereux, mais ça peut l'être. En tout cas, ils veulent pas prendre le risque d'aller trop vite, donc ils prennent le temps de voir ce qu'ils peuvent faire. Ils ont jusqu'au 21 juillet, parce que d'ici là, il faut libérer le port pour un ravitaillement, je crois.
Ah oui. Puis à la base, ils devaient rester 10 jours, je crois, dans l'ISS, et repartir le 14 juin. Et là, à l'heure où on vous parle, on est le 30, et ils y sont encore. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, la NASA a quand même précisé, alors après, je pense que la NASA se doit d'être rassurante, mais elle a précisé qu'en cas d'urgence, ils peuvent quand même rentrer, il n'y a pas de péril pour eux. Enfin, voilà, ils pourraient quand même rentrer avec, mais on peut
faire vérifier. A priori,
non,
ouais. Mais voilà, on ne veut pas faire n'importe quoi.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, apparemment, c'est un très bon vaisseau à piloter, qui est extrêmement précis, qui marche bien au pilotage manuel.
Okay.
Donc ça a l'air d'être un bon vaisseau, mais bon.
Ouais, à peaufiner.
Encore à peaufiner. Donc oui, les Américains galèrent un peu. Voilà, je voulais vous parler, pendant qu'on est dans l'ISS, qu'il y a une astronaute américaine qui est sortie en combinaison donc à l'extérieur de la station pour réparer un boîtier électronique. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait une fuite d'eau qui jaillissait de sa combinaison et qui a gelé de façon immédiate au niveau de sa visière.
Oui.
Donc là, allô Houston, on a un problème. Et ça a gelé, ça fait de la glace immédiatement au niveau, donc elle ne voyait plus rien. Alors elle a réussi quand même à colmater sa fuite et à rentrer dans la station. Mais il a fallu quand même 45 minutes pour la rapatrier à bord.
Donc, 45 minutes de sang-froid, là.
Ouais, il ne faut pas avoir un problème grave, immédiat. 45 minutes, ça me paraît long. Mais... Oui. Voilà. En tout cas, elle devait réparer un boîtier électronique, mais aussi collecter des échantillons de micro-organismes qu'ils ont laissés à l'extérieur de la station. Donc c'est dommage, j'aurais bien voulu savoir les petites bébêtes, là, comment elles s'appellent,
les tardigrades.
Les tardigrades étaient encore vivants après 6 mois dans l'espace intersidéral. Voilà. Bon, la suite au prochain épisode.
Okay.
Et je voulais vous parler d'une dernière chose.
Je t'en prie, c'est une découverte sur Mars, c'est ça ?
Ouais, c'est sur Mars. Donc Mars, il y a plein de satellites, il y a quelques satellites qui gravitent en orbite autour de Mars et qui observent tout ce qui se passe à sa surface. Il faut savoir que Mars a une petite atmosphère assez ténue, mais quand même assez présente, avec des variations climatiques et une météo variable, je dirais, avec des tempêtes... Des pluies, tu nous en diras plus après, s'il pleut sur Mars.
Des pluies, non, mais ouais, des
je crois
tempêtes
pas qu'il
de sable.
Pleuve, mais il y a des tempêtes et des variations de température.
Oui.
Et du coup, comme il y a un tout petit peu d'humidité, enfin, quand même, il y a un tout petit peu d'eau très très léger, il s'est formé du givre en haut des plus hautes montagnes. Donc sur Mars, il y a trois grosses montagnes, notamment le mont Tarsis, le mont Olympe, et le troisième, je ne sais plus.
En tout cas, c'est
des énormes montagnes. Elles sont très hautes. Elles font 5000 km de diamètre, 12 km d'épaisseur. Le mont Olympe, c'est le plus gros, il fait 21 km de hauteur. Ouais. C'est vraiment bon, il n'y a pas de niveau de la mer comme chez nous, donc c'est un peu aléatoire. Enfin, mais voilà, c'est des grosses montagnes. En tout cas, au sommet de ces montagnes, ils ont trouvé des traces de givre. Et a priori, ce serait de la glace d'eau
Okay.
qui la journée fond et le soir revient.
Ah ouais, dans la nuit, elle se
Ouais,
reforme. D'accord.
voilà. Donc voilà, c'était quand même. Il y a des belles photos avec la glace de ces volcans et ça leur permet d'essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Apparemment, il y aurait des vents qui remontent de l'humidité du bas de la surface et puis ça se condense, ça se dépose. Ça... Voilà, il y a des phénomènes un peu de météo qui sont sur Mars à regarder et à voir ce qui se passe pour comprendre. Il y a sûrement un cycle de l'eau sur Mars où il y en a eu un beaucoup plus présent qui s'est arrêté. Enfin voilà, il y a tout plein de choses à explorer à ce niveau-là.
Ok, et eh bien
Voilà.
merci Pierrick pour toutes ces infos, ces actus.
Avec plaisir.
Et on passe à ma petite chronique où je vais vous parler de pluie.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage.
Ah, c'était visiblement pas un astronome, hein, ce Brassens, pour dire parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Mais bon, je pense qu'au moins ma chronique devrait lui plaire. Alors ça n'aura échappé à personne, il pleut depuis 6 mois, hein, j'exagère à peine. Et à défaut de pouvoir observer les étoiles, j'en ai quand même pas perdu ma curiosité du monde. Et je me suis demandé sur quelle planète je pourrais bien migrer pour échapper à ces maudites averses. Alors on va commencer facile, allez. Si j'allais sur la planète la plus proche de nous, sur Vénus. On m'a dit qu'il ne pleuvait
pas grand chose, non ?
Mais oui, mais on m'a dit qu'il pleuvait jamais là-bas. Alors oui, il y a bien des nuages de dioxyde de soufre qui relâche une fine pluie d'acide sulfurique, mais en se rapprochant du sol, elles finissent par s'évaporer sous l'effet de la pression et de la chaleur intense qui règne à la surface de Vénus. Résultat, elles ne touchent jamais le sol, qui reste sec, rocheux et désertique. Mais comme tu le dis, le ciel en reste pas moins constamment bouché. Bon, laisse tomber. J'ai dit que je voulais oublier ce temps pourri. Si la plus proche planète est nulle, je pars pour la plus lointaine, Neptune. Elle est toute bleue en plus, c'est bien ce qui nous manque, hein, du ciel bleu. Son atmosphère est composée en grande partie de carbone. Oui, mais encore. Et ben en s'enfonçant vers le centre de Neptune, la pression et la température augmentent drastiquement. Et vous savez ce qui se passe quand on écrase du carbone chaud ? Ça fait du diamant. Sur Neptune, et d'ailleurs sur Uranus aussi, on peut dire qu'il pleut des diamants. Bon, ça renflouera mon compte bancaire, mais toujours pas moyen de voir les étoiles.
Tu me ramèneras un peu ?
Oui. Bon alors les planètes c'est pas gagné, on va essayer les lunes, allez, Titan par exemple. Cette grosse lune qui orbite autour de Saturne, c'est le seul satellite sur lequel on a posé un lander, hein, tu nous en parlais Pierrick dans l'émission 65. Mmh. C'est aussi le seul satellite sur lequel on voit une atmosphère dense. Alors rassurez-moi, il n'y a pas de pluie d'acide sulfurique là-bas, hein, non ? Ah c'est bien, de quoi ? Du méthane ? De la pluie de méthane, ah ouais, bon c'est pas forcément mieux. À la surface, on a même des océans de méthane et du vent, ce qui suggère des phénomènes que l'on connaît bien ici, comme des dunes et des vagues qui sculptent les côtes des océans de méthane de Titan. Bon, je sors le transat, hein, le temps de choisir où je vais bien pouvoir aller. Pas vrai, ça y pleut un peu partout dans le système solaire. Ah bah tiens, ça me donne une idée. Si je quittais le système solaire.
Ah.
Allez, on fait chauffer le moteur d'Alcubierre, la Stargate, peu importe, je pars. Direction HD 189-733B. Ouais, bon, c'est un nom un peu moins glamour qu'Ibiza ou Ajaccio.
La planète du Soleil.
Ouais, c'est ça. C'est direction le Petit Renard, c'est à quelques 65 années-lumière. Elle orbite une étoile semblable au Soleil, cette planète. Mais mauvaise nouvelle, il pleut aussi là-bas. Non, mais pas de l'eau, non, non, il pleut du verre. En effet, il y fait très chaud et on a détecté dans son atmosphère la présence de silicate, de sable en gros. Tout ce qu'il faut pour former du verre. Et pour rajouter au malheur, il y a des vents à plus de... Accrochez-vous. Non mais accrochez-vous, hein, littéralement, parce qu'il y a des vents à plus de 8000 km/h.
Wow.
Imaginez vous prendre une canette de Henken à Mach 7 sur le coin de la Trône, ça ne fait pas envie. Bon, c'est sous forme de petites gouttelettes, mais quand même, à cette vitesse, c'est un peu comme de la chevrotine. Bon, dernier essai, je remonte vite dans le vaisseau et je pars direction le Sagittaire, vers OGLE TR56B, une autre exoplanète avec un nom à coucher dehors et de type Jupiter chaud. Si chaude et si particulière que les modèles prédisent là-bas des pluies de fer liquide. Des gouttelettes de fer liquide.
Si t'as un moule dans ta poche, tu peux faire des formes de fer quand tu veux.
Des petits lingots au passage comme ça. Ouais. Non mais bon, enfin là c'est trop pour peu qu'il y ait du vent. Là c'est littéralement de la chevrotine. Donc voilà, bon, je sais pas vous, moi ce voyage il m'a épuisé. Comme quoi on se plaint, mais on n'est pas bien mieux loti ailleurs. Finalement, je crois que je préfère rester sur notre bonne vieille terre et ses pluies de microplastiques.
À boire une petite bière et de l'eau. Ouais. De l'eau. Merci voilà, Axel, super.
Évidemment, j'ai choisi les planètes où il pleut, parce que sur la plupart, sinon, il n'y a pas d'atmosphère et pas de pluie, hein, que ce soit sur Mercure, sur Mars, une très fine atmosphère, mais pas de pluie a priori. Et sur les autres lunes, non plus. Mais bon, voilà, on croise les doigts et puis on espère que l'été soit quand même bon et ensoleillé. On fait une petite pause musicale avec une suggestion de Fred qui nous a proposé le morceau de Lofofora qui s'appelle No Facho et qui va un peu vous réveiller comme ça, notamment si vous avez des troubles de l'élection.
Sourire, il faut mentir à poids, éclabousser une honte et demain on va et va l'assistance ravie. Reparlera demain matin et réjouit au charisme divin qui rien qu'à son odeur reconnaît l'envahisseur à la base du chômage et de tous vos malheurs.
No Facho, c'était Lofofora sur Radio Diwa. Et vous êtes toujours dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur, avec Axel et Pierrick cette fois. Et je vais vous parler de. Je vais faire un petit retour sur cet événement dont j'avais parlé à la dernière émission, On the Moon Again.
Vous avez pu nous voir à côté du Café de Paris.
Oui. Si vous êtes passé au bon moment. Alors voilà, pour
avec
la.
Le télescope en place.
Oui. Pour la troisième année consécutive, on était présent sur la place de l'église à Die pour montrer la Lune aux passants. Cette année, plus de 400 sites d'observation étaient répertoriés en France, plus de 600 dans le monde, dans je crois 54 pays. Et alors le vendredi, la météo n'a pas été de notre côté, mais le lendemain, nous avons, Pierrick et moi, tenu notre poste de 17h à 23h et rebelote le dimanche pour ma part. Des dizaines et des dizaines de personnes ont pu admirer la Lune grâce aux deux télescopes que nous avions mis en place. Alors j'aurais aimé enregistrer une sorte de micro-trottoir en parallèle pour recueillir les témoignages des observateurs ou leurs questions, mais je ne pouvais pas être au four et au moulin, hein, au Dobson et au casse-grain, comme personne ne dit dans l'astronomie. Je vais quand même profiter d'être au micro de Radio Diwa pour...
Il n'y avait pas de casse-grain, Axel.
Oui, en plus. Pour vous faire un petit retour sur ce week-end. Alors, on va commencer par les questions. Déjà, celle qu'on nous a de loin le plus posée, sous différentes formes, c'était...
C'était « Pourquoi aujourd'hui ? Mais il se passe quoi ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la Lune, aujourd'hui ?»
Eh bien, rien. Mais rien. Comme je disais il y a quelques temps, quand je parlais des aurores boréales, l'astronomie peut se pratiquer tout le temps. Pas besoin d'attendre tel ou tel événement annoncé par les grands médias, qui sont d'ailleurs souvent des non-événements, comme le disait Fred l'autre fois pour les fameux alignements planétaires du 3 juin. Bref, en deux mots, regardez le ciel. Il est intéressant en toute saison et à toute date. C'est d'ailleurs le message principal de notre émission. C'est la raison pour laquelle j'ai monté ma boîte Cosmodyssée. Et c'est pour ça qu'on participe à On the Moon Again chaque année pour rappeler aux gens de lever les yeux au ciel. Mais bon, quand même, pourquoi cette date ? Eh bien déjà, parce qu'il fallait bien en choisir une. Et aussi parce que c'est à ce moment-là du cycle lunaire qui dure 28 jours qu'on appelle le premier quartier, qu'elle est non seulement appréciable avec de belles ombres qui donnent à voir ses reliefs, mais aussi visible en fin de journée. Ça permet au plus grand nombre de l'admirer, et notamment à ceux qui se couchent tôt. Car oui, tiens, pour répondre à une autre question récurrente, oui, chaque mois, on voit la Lune en pleine journée. Je trouve ça fou d'apprendre ça à des gens qui ont vraisemblablement vécu plusieurs mois dans leur vie. Enfin bon, bref. Allez, on s'énerve pas, on passe à une autre question.
Et c'est quoi tous ces trous qu'on voit sur la Lune ?
Alors tous ces trous, ce sont des cratères. Et pour comprendre comment ils se sont formés, il faut remonter dans le temps, jusqu'au début de la formation du système solaire, il y a environ 4 milliards d'années. La Lune, comme les autres corps du système solaire, a à ce moment-là subi de très nombreux impacts d'astéroïdes, des gros cailloux. Les cratères sont les résultats de ces impacts. Sur Terre, Mars ou Vénus, les couches d'atmosphère ont freiné, voire désintégré ces impacteurs. Et c'est encore plus vrai sur les géantes gazeuses. Mais sur la Lune, Mercure, Pluton ou Cérès par exemple, le moindre astéroïde est assuré de finir au sol. Et puis il faut rajouter à cela que la Terre, sur Terre, depuis 4 milliards d'années, il y a eu quelques averses, surtout en 2024, provoquant de l'érosion, ainsi que des mouvements de continents qui ont effacé lentement mais sûrement les cratères témoins de cette période. On en trouve encore quelques 200 à notre surface plus ou moins visibles. Mais sur la Lune, il n'y a ni pluie, ni vent, ni mouvement tectonique. Les cratères sont donc voués à rester tels quels.
Oui, il y en a qui ont 4 milliards d'années, des cratères. Oui. Des très très vieux. Peut-être même il y en a plein qui se sont effacés parce que d'autres météorites sont venues par-dessus.
Oui. Bien sûr.
Et si on zoome un tout petit bout de Lune, on voit qu'il est constellé de mini-cratères aussi. De grains de poussière qui forment des tout petits cratères aussi.
Ah oui, si on regarde une poussière lunaire au microscope,
oui.
Elle-même est impactée par des micro-météorites. Mm-hmm. Oui, de l'ordre du micromètre. Allez, on continue. Nouvelle question.
Alors, pourquoi sur la Lune, il y a des zones sombres et pourquoi on appelle ça des mers ?
Eh ben, alors, certaines sont connues, hein, comme les mers de la tranquillité, de la sérénité, de la fécondité. D'autres moins, comme la mer du nectar, des humeurs, des vapeurs. Mais toutes sont le résultat d'immenses cratères, si profonds qu'ils ont atteint la couche magmatique qu'il y avait à l'époque sous la surface lunaire. Ils ont donc été remplis de lave, de basalte, qui a ensuite séché. La différence de couleur indique donc une différence de composition avec le reste de la surface. Ces mers recouvrent environ 16% de la totalité de la Lune et sont quasiment toutes du côté visible de notre satellite. Et ce n'est pas un hasard, puisque la densité plus forte de ces zones implique plus de masse, masse qui se retrouve plus fortement attirée par la gravité de la Terre que la face cachée de la Lune. Mmh. Et donc c'est pour ça qu'elle nous montrerait toujours ce côté-là, ce côté avec les mers, parce qu'elle est plus lourde de ce côté-là.
Ah ouais.
Tiens, ça m'amène à une nouvelle question. Pourquoi il y a une face cachée et une face visible ? C'est simplement dû au fait que la Lune met exactement le même temps à tourner sur elle-même qu'à tourner autour de la Terre. Et ce n'est pas un phénomène exceptionnel, hein, comme on peut l'entendre parfois. C'est un équilibre gravitationnel commun qu'on retrouve ailleurs dans le système solaire. Mais voilà, en un cycle lunaire, chaque partie de la Lune reçoit la même quantité de lumière. Quand c'est la nouvelle Lune pour nous, ou pendant une éclipse, c'est bien la face cachée qui est pleine. Et souvent cette confusion, notamment due à l'expression anglaise, où pour la face cachée, ils appellent ça la dark side. Voilà, en réalité, elle n'est pas plus dark qu'une autre.
Oui, elle n'est pas sombre tout le temps.
Non, ouais. Elle est cachée de chez nous, mais éclairée. Pas plus sombre. C'est ça.
À la nouvelle Lune.
Allez, une dernière question.
Oh là là, tout ce matériel, mais ça doit coûter cher, non ?
Eh ben non, pas tant. Hein. Je rappelle qu'on peut très bien se faire plaisir en astronomie sans dépasser les 1000 euros, voire même en occasion pour quelques 300 ou 400 euros. Soit moins que le prix d'une télé ou d'un iPhone ou d'un fusil de chasse ou d'une semaine pour un adulte au Club Med à l'Alpe d'Huez. Mais si vous voulez y mettre 10 000 euros, vous trouverez aussi de quoi les dépenser. Mais pour commencer, un petit budget suffit. Et puis, tant que je parle du matos, on a aussi eu des questions un peu sur son fonctionnement. Alors, je vais faire un rappel là-dessus. On a utilisé pour ces deux soirées deux télescopes de type Newton. Le premier, d'un diamètre de 250 mm, n'était pas sur un trépied, mais sur une monture Dobson. Par abus de langage, c'est devenu le nom de l'ensemble, un Dobson. C'est posé à même le sol sur une petite caisse pivotante et muni de demi-cercles qui permettent de l'incliner. Son fonctionnement est entièrement manuel, en tout cas pour celui-là qu'on a utilisé, ce qui nous a fait opter pour un faible grossissement de 60 fois. Le deuxième était, lui, sur une monture dotée de moteurs, assurant le suivi de la cible, de la Lune en l'occurrence. Bien qu'un peu plus petit en diamètre, c'était un 200 mm, on l'a utilisé avec un grossissement plus fort de 120 fois, même de 200 fois quand le ciel est devenu assez sombre. Dans les deux cas, c'était donc des télescopes de type Newton, qui fonctionnent grâce à un gros miroir, le primaire, de forme concave, creusée, parabolique un peu, qui focalise la lumière vers un miroir secondaire. Le secondaire, lui, ne sert qu'à diriger le faisceau vers l'œil de l'observateur. Et entre les deux, on place une lentille, entre l'œil et le secondaire, on place une lentille et c'est véritablement elle qui va plus ou moins grossir l'image. Voilà, je rigole, hein, je m'énerve un peu, mais en vrai, merci à toutes et à tous pour votre curiosité, qui n'est pas du tout un vilain défaut, bien au contraire. On va passer maintenant aux réactions et aux témoignages qui nous ont marqués. Pierrick, tiens, si tu veux commencer en nous parlant du superbe témoignage de cette dame, je pense que tu vois de qui je veux parler.
Oui, elle, une dame qu'on parlait donc d'espace, de la Lune et tout ça. Et elle me parlait de son souvenir de la mission Apollo, de Apollo 11, donc les premiers pas sur la Lune. De son souvenir de jeunesse, donc je crois qu'elle avait 12 ans à l'époque. Et elle me racontait qu'elle était en colonie de vacances. Et que les animateurs avaient dit à tout le monde qu'il devait y avoir une télé sur le centre. Ouais. Ils avaient fait venir tout le monde pour regarder ça en direct à l'époque.
Ouais, c'était vers 22h en France. Ouais.
Oui, en soirée comme ça. C'était en juillet en plus.
Ouais, hein. Fin juillet.
Fin juillet, ouais. Et là, c'est son plus gros souvenir de télévisuel, quoi, pour elle. Et ça a marqué un peu toute sa jeunesse.
Donc, ouais, elle nous a parlé longuement de l'émotion, de un peu la fierté aussi qu'elle a ressentie vis-à-vis de l'espèce humaine, quoi, de dire ouais, on a réussi à faire ça. Fin.
Et ouais, qu'est-ce que ça a impacté psychologiquement sur l'être humain, c'est ça, c'est que c'est puissant, c'est que c'est quelque chose de beau, je dirais, d'être allé là-haut. Bon, c'était dans un certain contexte à l'époque, mais...
Oui.
Quand même, c'est une réussite majeure, technologiquement en tout cas, et aussi humainement, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont été impliqués là-dedans. Après, elle me parlait d'autres choses. Elle me parlait que le plus gros souvenir télévisuel de son fils, qui a une quarantaine d'années, je crois. Et elle me disait que c'est pour lui le plus gros souvenir télévisuel de son fils. Donc, c'était le 11 septembre 2001.
Ah oui, les avions qui rentrent dans la tour. Ben oui, voilà. Je pense que ouais, pour chutes, moi aussi. Hein, je
ouais,
pense
que moi aussi.
Je dois dire le truc qui m'a le plus marqué, mais pas, du coup, pas du tout dans le même registre de sentiments. Mais oui, ça doit être ça. Ouais. Ouais.
Donc voilà, on parlait de cette différence de... On a grandi pas dans le même...
Ouais. Dans bienvenue le même au 21e monde. Siècle. Voilà.
Et bon, bah voilà, c'est comme ça, on va pas changer l'histoire, mais il y a un changement de paradigme. C'est vrai que la Lune, on y allait il y a plus de 50 ans, on n'est pas retourné depuis. Là, on suppose qu'ils vont y retourner, a priori. Bon,
dans la décennie, probablement. Ouais.
Ça fait longtemps qu'on en parle et...
Voilà. Et que ça avance doucement.
Ouais. Ouais. Voilà, c'était juste vous faire part de ces réflexions que je trouve intéressantes.
Et ben oui, oui. Moi, j'ai une pensée aussi pour le petit Léo, qui était là samedi, qui a surkiffé au point de revenir le lendemain. Il a passé longtemps à regarder dans l'oculaire. Il a rempli le téléphone de sa maman de photos de la Lune. Il a même noté les différences visibles entre les deux soirs. Et puis bon, il ne voulait plus partir. Peut-être un futur membre de l'Astro Club du Diois. voilà, et puis bien sûr, je pense au bouche bée, au la vache, ou au mais non, qui font toujours plaisir et qui sont l'essence même de cette manifestation. Et puis aussi de ma profession de montreur d'étoiles.
En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous faire partager ça en pleine ville, à tout le monde. C'est très chouette et on est très heureux de faire ça de manière bénévole et totalement sincère.
Ouais. ben voilà, pour finir, ben je voudrais remercier les organisateurs pour la conférence de préparation, les cartes de la Lune qui nous ont envoyées, qui étaient à distribuer, et la poussière de Lune aussi qui nous ont envoyé cette année. Voilà, merci aux journalistes que j'ai contactés qui ont relayé l'info et puis surtout ben, un grand merci à vous qui êtes venus nous voir et voir la Lune et ben, rendez-vous l'année prochaine.
Et oui, c'est toujours intéressant de prendre un peu de recul en ce moment, d'observer la Lune, de voir ce qu'on voit, du coup de se dire nous on en est où. Voilà, je vous invite à observer le ciel et à prendre conscience de ce qui se passe.
Ouais. Et si vous voulez le faire avec nous, et ben, on le répète, rendez-vous le 3 août à Marignac, sur l'aire de loisirs, pour toute une fin de journée et toute une nuit autour de l'astronomie, et bien sûr avec de l'observation, s'il fait beau. et bien voilà, voilà qui conclut cette émission de l'Étoile polaire. On vous souhaite un bon dimanche sur Radio Diwa, et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Merci.
Merci Pierrick.
Ciao.